matin, nous poursuivons notre étude du livre de l'Apocalypse. Donc, je m'en réjouis. Excusez-moi. Et donc, nous sommes dans Apocalypse 4, chapitre 4, que j'ai intitulé tout simplement « Un voyage au ciel ». Un voyage au ciel. Et donc, j'aimerais que nous lisions le chapitre 4 avant d'entamer notre étude. Donc, Apocalypse, chapitre 4, et je vais lire à partir du verset 1. J'en parle. « Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Waouh ! Et bien que Dieu bénisse sa parole ce matin. Un voyage au ciel. Nous avons déjà examiné l'arrière-plan historique du livre. Vous vous rappelez que l'apôtre Jean est sur l'île de Patmos, en Grèce, exilé, persécuté pour sa foi. Là, il reçoit une vision où il reçoit de la part de Jésus 7 messages pour 7 églises en Asie mineure. Donc la première vision de Jésus est au chapitre 1, les messages pour les 7 églises au chapitre 2 et 3. Puis au chapitre 4, le chapitre d'aujourd'hui, Jean est tout simplement invité à faire un voyage au ciel. Alors Jean va tenter de communiquer ce qu'il voit en ses mots, en utilisant des termes, bien sûr, et des concepts que lui connaît en tant qu'humain. Alors certes, j'avoue que pour nous, ce n'est pas toujours évident et facile de savoir exactement à quoi ces choses se réfèrent, mais nous allons faire notre mieux pour essayer de comprendre. Comme déjà expliqué, la meilleure manière d'interpréter ce qui est apocalyptique est toujours en commençant à prendre les choses au premier degré, donc littéralement. Si une interprétation littérale n'a aucun sens, alors nous pouvons, avec beaucoup d'humilité, essayer d'interpréter ce que Jean considère peut-être un symbole qu'il essaie de représenter par cette vision. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire, bien sûr, avec humilité. Alors, ce que je trouve personnellement particulièrement intéressant en considérant les chapitres 4 et 5 d'Apocalypse, c'est de constater que ce livre... sur la fin des temps, bien sûr, hein, l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible qui va nous décrire la fin des temps, comment Dieu a compris la fin des temps, enfin comment il a déterminé la fin des temps. Et donc, comme vous le connaissez peut-être en lisant déjà ce livre décrit la fureur, le courroux et la colère de Dieu, et le jugement du monde que Dieu va déverser sans réserve sur le monde à partir du chapitre 6 et jusqu'au chapitre 19. Ce qui me frappe, c'est que tout ce jugement commence ici avec une description du ciel, de Dieu, du trône de Dieu et de ceux qui se trouvent dans le ciel actuellement en train d'adorer Dieu. Vous voyez, avant de voir le jugement de Dieu sur terre, c'est comme si Dieu tire le rideau du ciel, sa demeure, pendant quelques instants, pour que nous puissions avoir un aperçu de la source du jugement à venir, qui est nul autre que Dieu lui-même qui est sur son trône dans le ciel. Car tout ce qui va se passer sur terre a son origine avec Dieu dans le ciel. Et c'est dans ce contexte de jugement horrible sur terre que nous constatons une adoration zélée et authentique dans le ciel autour du trône de Dieu. Quel contraste ! Quel contraste ! Pendant que les gens sur terre souffrent cruellement du jugement de Dieu, et ça on va le regarder en détail dans les semaines à venir, ceux dans le ciel adorent le même Dieu en esprit et en vérité. Ce que nous allons conclure, c'est que le jugement de Dieu est le résultat naturel et juste de sa sainteté, de sa justice, mais aussi de son amour. Oui, un parent qui aime ses enfants les discipline. Dieu n'est pas différent, sa sainteté, sa justice exige son jugement lorsque sa création se rebelle contre son Créateur. Et étonnamment, en contemplant l'adoration et la louange de ceux qui sont déjà avec Dieu dans le ciel, nous saisissons quelques indices sur comment nous devrions déjà être en train d'adorer Dieu ici sur terre, en attendant ce jour où lui nous appellera pour être avec lui et l'adorer face à face dans le ciel. Alors, on peut se poser la question, quels sont les éléments fondamentaux d'une adoration authentique et acceptée par Dieu lui-même ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ce matin. Mais avant de répondre à cette question, l'application, parcourons le chapitre 4 pour voir déjà ce qui se passe là-haut. Donc là, on tire le rideau pour voir ce qui se passe là-haut, décrit en quelques mots, en quelques versets, dans ce chapitre 4 et encore le chapitre 5 que nous verrons la prochaine fois. Donc, Jean est téléporté en vision. Et ce que nous allons voir, c'est que tout le chapitre 4 tourne autour d'un trône. Le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Verset 2, aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et au verset 2, on apprend ce qu'il y a sur le trône, au verset 4, ce qu'il y a autour du trône, au verset 5, ce qu'il sort du trône, au verset 5 encore, ce qu'il y a devant le trône, et au verset 6, ce qu'il y a au milieu du trône. Donc tout tourne autour du trône. Donc si vous voulez comprendre le chapitre 4, pensez au trône. Au trône. Tout tourne autour du trône. Donc on aurait pu diviser le chapitre en regardant ces aspects du trône. Pour être un petit peu plus simple et précis, j'ai décidé de regarder simplement avec Jean ce qu'il voit. Donc il arrive, tac, au ciel. Et qu'est-ce qu'il voit ? Eh bien, il voit 10 choses. Il voit et entend 10 choses. Et c'est comme ça qu'on va parcourir le texte ce matin, d'accord ? Alors, la première chose qu'il voit, c'est une porte. Verset 1. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. Alors, il dit, après cela, je regardais. Donc, Jean regarde. C'est une expression d'étonnement dans l'original. Et la première chose qu'il voit, c'est une porte ouverte qui mène au ciel. Alors, nous n'en savons pas plus. Nous savons que Paul a eu le privilège aussi d'aller au ciel. Dans 2 Corinthiens 12, 2, il était ravi au ciel, nous dit le texte. Et là, on apprend qu'il y a une porte. À quoi ça sert une porte ? Vous avez posé la question? Pas une porte, ça sert à bloquer une entrée, en fait. Hein, une porte, si on la ferme, ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer. Si on l'ouvre, on peut rentrer. Donc, je pense qu'on peut conclure par cette porte, c'est que l'accès au ciel n'est pas systématiquement pour tout le monde. Il y a une porte. C'est ce que Jésus avait dit dans Matthieu 7, le verset 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Donc tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'il y a une porte. Elle est ouverte. Donc, Jean voit. Deuxième chose qu'il voit, ou qu'il entend, une voix. Une voix. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Alors, dans le chapitre 1 et le verset 10, on avait déjà entendu cette voix. « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Alors, cette voix au verset 13, « Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine, était là. » Et encore le verset 18, « Cette voix lui dit, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il n'est nul autre que Jésus-Christ ici. » Jésus-Christ. Donc, il entend la voix de Jésus. Et Jésus parle à Jean et lui dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Ah, mais allez voir, mettez-vous dans la place de Jean. Jésus te parle et il te dit « Écoute, viens ici, je veux te montrer tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. » Non mais c'est trop génial. Bon, peut-être ça fait un peu peur aussi, hein, je me dis. Quelle invitation! Et c'est à partir d'ici que Jean, que Jésus va commencer à révéler à Jean, qui nous l'a communiqué ultérieurement, le plan de Dieu pour la fin du monde. C'est ce qu'il dit. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Troisième chose qu'il voit. L'esprit. L'esprit. Verset 2 encore. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, ben on s'arrête là. Je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône. Il est donc saisi par l'Esprit. Donc, apparemment, il est là sur son île, à Patmos. Tout d'un coup, il est saisi par l'Esprit. Alors, en un instant, tac, l'Esprit le saisit. Alors, on n'y était pas, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Et là, en un instant, il se trouve au ciel devant cette porte. Il n'y a pas eu tant de transition ici. On regardait Star Trek l'autre jour. Vous avez déjà vu Star Trek? Comment on appelle, vous savez, quand il pousse le bouton, puis la personne, elle commence à se décomposer, puis elle monte. C'est quoi le verbe? Quoi? Téléporter. Voilà. Ben là, il est un petit peu téléporté à la Star Trek, j'en sais rien. Mais c'est un petit peu ce qui se passe. Il est là sur Terre et tout d'un coup, pff, il se retrouve là-haut, dans le ciel. Alors, son corps est resté sur Terre, apparemment. Je ne peux pas vraiment vous l'expliquer mieux que cela, puisque cela n'est arrivé que deux fois dans le Nouveau Testament, Paul et Jean. Et puisque cela n'est arrivé que deux fois dans le Nouveau Testament, personnellement, ça me fait sérieusement douter ceux qui prétendent de nos jours avoir eu la même expérience. C'est très populaire aujourd'hui de dire « Écoutez, je suis mort ou je suis presque mort, je suis allé au ciel, j'écris un livre et je me fais des millions. » Puis ensuite, cinq ans plus tard, on dit « Non, mais c'était des bobards. » Vous savez ça, on entend souvent ça. Non, c'est arrivé que deux fois dans le Nouveau Testament. Moi, je doute que ça arrive de manière régulière, fréquente, ou peut-être même du tout. On a déjà eu la révélation de ce qui va arriver. Tout est là. Donc, il est saisi par l'Esprit. Il va au ciel. Quatrième chose qu'il voit, un trône. Verset 2. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il y avait un trône dans le ciel. Alors, c'est quoi la nature exacte de ce trône? Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un trône littéral dans le ciel? Donc, est-ce qu'il y a un meuble avec des marches, comme on les voit dans les films, d'accord, avec un trône, avec, je ne sais pas, peut-être une statue de chaque côté, un truc. C'est douteux qu'il y ait un trône littéral. Ésaïe 66, 1, ainsi par l'Éternel, il dit ceci, « Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. » C'est intéressant, je trouve. Il dit que le ciel est son trône. Alors, est-ce que ce trône, c'est une image plutôt de la toute-puissance de Dieu? C'est là où on rentre dans... On ne sait pas trop, en fait. Soyons honnêtes. Mais un trône représente la toute-puissance, l'autorité, celui qui règne. Dieu est au ciel et il contrôle tous les événements sur terre, inclus ceux qui vont bientôt avoir lieu. Tous ces jugements qui vont avoir lieu. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous dit qu'il y a un temple dans le ciel également, dans lequel se trouve le trône de Dieu. Mais c'est là où c'est très important de bien potasser notre Bible, parce qu'on lit, tiens, il y a un temple dans le ciel, alors on s'imagine, tiens, il y a un temple dans le ciel. Mais regardez, Apocalypse 21-22 nous dit ceci. 21-22, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. » Donc la Bible nous dit elle-même que ce temple qui est décrit dans la Bible est en fait Dieu et Jésus. Ils sont le temple. On a donc l'impression que Jean décrit ici la présence de Dieu dans le ciel, et la place de Dieu dans le ciel comme étant sur un trône dans un temple. Bref, on voit ce coup d'œil, ce clin d'œil, on voit très brièvement ce qui se passe dans le ciel. On voit la demeure de Dieu lui-même, on voit qu'il règne sur tout ce qu'il a créé. Et c'est de ce trône, et ça c'est important, c'est de ce trône que va se déchaîner toute la colère de Dieu sur terre. 5. Il voit celui assis sur le trône. Verset 3. Celui qui était assis... Non, je devrais reculer. Verset 2. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit. Voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alors, il y a un petit mot intéressant. Il dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Donc on voit que Jean, en voyant ce trône, en voyant celui qui est sur le trône, Dieu, ben il essaye de décrire ce qu'il voit avec des choses qu'il connaît. Le jaspe, chapitre 21, verset 18, à l'époque était clair et presque translucide, pas comme aujourd'hui. Le jaspe avait presque l'aspect d'un diamant. La sardoine ressemblait à un rubis. On apprend au chapitre 21, 19 à 20, que la fondation de la Nouvelle Jérusalem est en sardoine. Non, on a l'impression que Jean est en train de décrire Dieu sur son trône, mais la splendeur, la gloire de Dieu. Pour lui, Dieu est comme un diamant avec toutes ses facettes qui scintillent dans la lumière. Vous savez, on était à Dubaï la semaine dernière, on est allé voir notre fils là-bas. Et on est allé visiter le quartier des diamants à Dubaï. Là, il faut voir. On rentre dans un immense immeuble, puis des magasins partout, avec des pierres précieuses partout. Alors, je parlais avec un gars, il y a beaucoup d'Indiens. Les Indiens, donc de l'Inde, sont les champions de taille des petits diamants au monde. Il a dit, est-ce que vous voulez voir? On a dit, bien sûr. Donc, on est allé dans un atelier, il y avait des centaines d'Indiens, avec des jumelles qui étaient en train de tailler des diamants, en train de fabriquer des bijoux. C'était impressionnant à voir. Et puis on rentre dans ces magasins, il y a des lumières partout, ça scintille partout. Et je me suis dit dans mon cœur, parce que j'étais en train d'étudier ça, mes pauvres amis, vous n'avez rien vu encore. Rien vu. Vous savez, il y a vraiment des beaux diamants, hein, des très beaux diamants là. Wow! Mais allez voir, quand j'envoie Dieu sur son trône qui scintille comme un diamant, et toujours, il ne faut jamais oublier que le contexte, c'est les jugements à venir. Cette gloire de Dieu qui va ensuite, en justice et en justesse, déverser sa colère sur la terre. Donc, voilà comment il décrit Dieu, comme un diamant qui brille. Du jaspe, la sardoine. Sixième chose qu'il voit. Un arc-en-ciel. Verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alors rien de plus nous est dit sur l'arc-en-ciel. Je me suis posé des questions. Était-il courbé? Vous savez, nous, on a un arc-en-ciel comme ça. C'est toujours en demi-cercle. Vous avez remarqué? Toujours. Alors, est-ce que c'était un demi-cercle, comme nous voyons sur Terre, ou était-ce référence uniquement aux couleurs de l'arc-en-ciel, avec une prééminence pour la couleur émeraude? Ou bien, certains commentateurs pensent que l'arc-en-ciel était parfaitement rond, un peu comme une auréole, autour du trône de Dieu. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que la gloire de Dieu est représentée par des couleurs scintillantes d'une splendeur inouïe. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi un arc-en-ciel? Pourquoi un arc-en-ciel? Eh bien, il faut repenser au livre de la Genèse. Pourquoi est-ce que l'arc-en-ciel a été donné à Noé? Comme garantie que Dieu ne détruirait jamais la terre par un déluge. Il avait déjà détruit la terre par un déluge. Il a promis, je ne le ferai plus jamais, donc il a donné l'arc-en-ciel. Et chaque fois qu'on on voit un arc-en-ciel, on devrait se dire, ah, merci Seigneur, tu tiens tes promesses. Tu as promis que plus jamais tu détruirais la terre par un déluge. Mais il n'a pas promis qu'il ne détruirait pas la terre par le feu. C'est très différent. Et dans 2 Pierre 3:10, c'est exactement ce qu'il promet qu'il va faire. 2 Pierre 3:10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Dieu va détruire la terre de nouveau, mais pas par de l'eau, cette fois par le feu. Et mes amis, ça devrait être un sujet de louange et d'adoration, parce que Dieu tient ses promesses, toutes, sans exception. Quand Dieu dit que quelque chose arrivera, cette chose arrivera. Écoutez, je fais ça tellement de fois, mais je le refais. Je dis aux gens qui sont incrédules, voilà une Bible. Voilà le plan de Dieu qu'il a révélé aux hommes. Tout ça, c'est déjà arrivé. Tout ce qui reste, c'est l'Apocalypse, ça. C'est quand même génial. Alors, si tout ça, c'est déjà arrivé, moi, je parie ma vie que ça va arriver. Dieu tient ses promesses. Toutes. L'arc-en-ciel en est la preuve. L'arc-en-ciel dans l'épreuve. 7. On va vite aujourd'hui, vous ne trouvez pas? On va un petit peu ralentir là, d'accord? 7e chose que j'en vois. 24 vieillards. 24 vieillards. Verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Alors Jean voit le trône principal, et autour de ce trône principal sur lequel est assis Dieu, il voit 24 autres trônes, probablement plus petits, avec 24 vieillards assis sur ces trônes, vêtus de blanc, avec chacun une couronne. Alors bien sûr, la question, mais c'est qui ces 24 vieillards? C'est la grande question. Il y a globalement deux options. Les commentateurs, globalement, évoquent deux options. La première est celle-ci. Ils représentent, ou ce sont des anges. Des anges. Certains pensent que les 24 anciens représentent 24 anges qui composent le conseil céleste. Alors, dans les Écritures, nous savons qu'il y a deux grandes catégories d'anges, les chérubins et les séraphins. Alors, selon eux, s'il y aurait 12 de chaque, on ne sait pas. Ça, c'est la première option suggérée. La deuxième option, c'est que les 24 vieillards ne représentent pas des anges, mais l'Église. L'Église. Des hommes. Des hommes, les gens de l'Église qui sont déjà morts et qui sont là-haut. Dans cette hypothèse, 24 représente le double de 12. D'accord, ça c'est logique. Et le chiffre qui semble représenter ce qui est considéré complet. Alors, c'est mon opinion que c'est l'Église, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour plusieurs raisons. Premièrement, les trônes. Le fait que les 24 anciens sont assis sur des trônes montre qu'ils règnent avec Christ. Nulle part voit-on dans les Écritures les anges être sur des trônes en train de régner avec Christ. Les anges ont un but très précis dans les Écritures, celui de servir. De servir. Par exemple, dans Hébreux 1, 14, il est dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» L'Église, en revanche, est bien appelée à régner avec Christ. Dans Matthieu, par exemple, je vous donne quelques exemples, hein, 19, 28, il est dit « Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Dans 1 Corinthiens 6, 2 à 3, il est dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre des moindres jugements ?» Et ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Donc voilà, les chrétiens sont appelés d'une manière ou d'une autre à régner et même à juger auprès de Dieu. On voit deuxièmement que les anges ne sont jamais comptés dans les Écritures. Ici, il y a 24 anciens, ben les anges, c'est toujours des myriades et des myriades et des myriades d'anges. Nulle part y a-t-il un chiffre. Le mot, troisièmement, le mot ancien, presbyteros, n'est jamais utilisé pour décrire des anges dans la Bible, mais toujours utilisé pour décrire des hommes. Et de plus, le mot presbyteros, ancien, parle de la maturité ou de l'âge d'une personne, ce qui aurait un non-sens pour les anges qui n'ont pas d'âge. Quatrièmement, et là on est en train d'expliquer pourquoi nous croyons que les 24 anges sont l'Église, les 24 anciens sont l'Église. Dans Apocalypse 7, 11, les anges sont différenciés des anciens. Ça c'est intéressant. Dans 7, 11, il dit « Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternent de leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. » Donc les anges et les vieillards sont différenciés. Donc apparemment c'est deux catégories différentes de personnes. Encore une raison, les vêtements blancs, bien que les anges apparaissent en blanc dans les Écritures, comme dans Jean 20, 12, lors de la résurrection, il est plus courant de voir les croyants habillés en blanc. Ben oui, quand on va revenir avec le Seigneur, jugé à la fin des temps, dans 19, 8, je crois, c'est ça. Ouais, mais ça marche aussi. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Ah, c'est beau, hein, ça. Les vêtements blancs symbolisent la justice de Dieu donnée aux croyants au moment de leur salut. On est complètement pardonné de nos péchés. Et finalement, les couronnes, c'est peut-être un des arguments les plus clairs. Les anges dans la Bible ne sont jamais représentés avec des couronnes sur la tête. Il y a deux types de couronnes décrites dans la Bible, des couronnes pour régner, comme celle d'un roi, ce qu'on appelle un diadème. Mais aussi, il y a des couronnes de champions, ce qu'on appelle les stéphanos. Ici, c'est la couronne d'un champion qui est sur chacune des têtes, celle qui est promise aux chrétiens. Et c'est vrai qu'il est, par exemple, dans 2 Timothée 4,8, c'est ça qui nous est promis. Dans 2 Timothée 4,8, « Désormais, la couronne de justice, dit Paul, m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auraient aimé son avènement. » Et je disais ce matin dans mon culte personnel, dans 1 Pierre 5,4, qui disait ceci, « Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Donc, toutes ces raisons semblent indiquer que les 24 anciens sont des humains, des hommes, des femmes, l'Église de Jésus-Christ et non pas des anges. Le chiffre 24, on a l'impression, représente quelque chose de complet. Ce qui est important, je pense aussi à noter, c'est que les anciens, ces 24 anciens, sont déjà dans le ciel avant le commencement de la grande tribulation. Jean monte là-haut, il les voit, ils sont déjà là-haut quand il les voit. La grande tribulation commence, les jugements commencent au chapitre 6. Peut-on conclure que ces 24 anciens représentent donc les chrétiens enlevés juste avant la grande tribulation et ceux qui sont déjà décédés bien avant? Beaucoup le pensent. Alors certains veulent jumeler les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres pour un total de 24. Pour ce chiffre, peut-être, on ne sait pas. Bref, est-ce que ces 24 anciens représentent l'Église? L'Église. Probablement. Huitième chose que voit Jean. Des éclairs, des voix, du tonnerre et des lampes. Verset 5. Verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alors dans les Écritures, et on voit dans les textes comme Exode 19-16, Ézéchiel 1-13, Apocalypse 8-5, 11-19, 16-18, que ces choses, éclairs, voix, des coups de tonnerre, sont souvent liées à la présence de Dieu et au jugement de Dieu. C'est comme si Jean, en étant là-haut, il voit cette bande-annonce du film qui va arriver. Hein, le film, ce film du jugement qui est une réalité, pas qu'un film. Et on apprend que devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Ça, on l'avait déjà regardé dans le chapitre 1, verset 4, que les 7 esprits de Dieu sont une manière de décrire l'esprit de Dieu dans toute sa plénitude. Ésaïe 11, 2, Zacharie 4, 1 à 10. Et le fait que les 7 lampes sont décrites comme étant ardentes semble décrire le jugement de Dieu. Donc il voit ça, des éclairs, des voix du tonnerre et des lampes. Vous avez déjà été dans un immense orage, avec les éclairs juste au-dessus, où il n'y a pas de délai entre l'éclair et le tonnerre. Vous ressentez quoi? Ça fait peur, hein? Franchement, ça fait peur. Voilà. On a vraiment l'impression que ça annonce le jugement de Dieu qui va venir. Neuvième chose qu'il voit, verset 6, une mer de verre. Une mer de verre. Verset 6, il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Alors voici un très bon exemple sur comment distinguer le littéral du symbole. En ce qui concerne la mer décrite par Jean, il faut noter que Jean fait une comparaison. Il dit, il y avait encore devant le trône comme une mer de verre. Quelque chose qui ressemblait à une mer de verre, semblable à du cristal. Mais si on va dans Apocalypse 21.1, on apprend ceci. 21.1. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. Ah non, ce n'est pas du tout ce que je cherchais. Euh... Alors, je cherche le verset où il est dit que la mer avait disparu. Puis vous pouvez m'aider. C'est pas 22, alors c'est peut-être 22:1. Alors, 1, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus, bien sûr, 2 mots avant. D'accord. Donc, je me suis trompé de verset. Donc, la mer n'était plus. La mer n'était plus. Donc, apparemment, cela affirme que dans le ciel, il n'y a pas de mer. Donc, c'est une métaphore ici. Jean compare ce qu'il voit à ce qu'il connaît. Et il dit, tiens, je vois devant ce trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et là, on arrive à la dixième chose qu'il voit. 4 êtres vivants. 4 êtres vivants. Verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Alors, voyons en premier leur description. 4 êtres vivants. On a l'impression qu'ils étaient peut-être plus proches du trône de Dieu que l'étaient les 24 anciens. Car il est dit au verset 6, c'est intéressant quand même ces prépositions, il y avait encore devant le trône, au milieu du trône et autour du trône. Donc Dieu est assis sur le trône, mais là, avec ces prépositions, il dit, au milieu et autour du trône, il y a 24 anciens. Il y a 4 êtres vivants. Donc, ils font partie du cercle le plus rapproché autour du trône de Dieu. Alors, bien sûr, ils ressemblent énormément, si vous connaissez le livre d'Ézéchiel, aux êtres décrits par Ézéchiel dans chapitre 1. Je vais lire. Ézéchiel 1, à partir du verset 5. Il a une vision, il voit ceci. Au centre encore, Ézéchiel 1, 5, apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle des pieds d'un veau et ils étincelaient comme de l'air impoli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes et les 4 côtés de tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ils se tournaient point en marchant mais chacun marchait droit devant. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche et tous 4 une face d'aigle. Donc, il ressemble, Apocalypse 4, à ce que Ézéchiel voit dans Ézéchiel 1, mais leur activité ressemble à ce que Ésaïe voit dans Ésaïe 6. Et dans Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre, et ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Donc, ils ressemblent aux êtres d'Ézéchiel, mais parlent comme les séraphins d'Ésaïe 6. Il est certain qu'Ézéchiel, comme Jean, avait de la peine à décrire ce qu'il voyait. C'était spectaculaire, grandiose, mystérieux, totalement autre, différent que ce qu'il n'avait jamais vu ni imaginé dans le ciel. Qui sont ces êtres mystérieux ? Eh bien, je pense que la réponse nous est donnée de manière claire dans Ézéchiel. Qui sont ces êtres ? Eh bien, dans Ézéchiel 10, chapitre 10, et le verset 15, il est dit ceci. Si on fait le rapprochement entre les êtres d'Ézéchiel et Apocalypse 4, qui semble être le cas, il dit au verset 15, « Et les chérubins s'élevèrent, c'était les animaux que j'avais vus près du fleuve de Kébar. Et ces animaux étaient ces quatre êtres que je viens de vous décrire au chapitre 1. Donc, on a l'impression que ces quatre êtres sont clairement des chérubins. On sait qu'il y a plusieurs types d'anges dans la Bible, dont les séraphins, Ésaïe 6, les chérubins, qui avaient eu le rôle de magnifier la sainteté, la puissance de Dieu. Vous vous rappelez par rapport à ces anges, c'est intéressant, dans Genèse 3, 24, lorsque Adam et Ève pêchent contre Dieu et ils les virent du jardin, eh bien dans Genèse 3, 24, on apprend ceci, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc c'est intéressant que déjà dans de Genèse chapitre 3, il y a des chérubins, ils existent. Dieu utilise les chérubins pour bloquer l'accès au jardin d'Adam qui a été chassé du jardin. Dans 1 Samuel 4, 4, il est dit ceci, le peuple envoyait des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Vous vous rappelez, l'arche de l'alliance avait deux chérubins par-dessus aussi, deux anges sur l'arche de l'alliance. Protéger cette sainteté de Dieu. Alors, ce qui est incroyable, mais franchement incroyable, c'est d'imaginer la réalité du fait que Satan lui-même avait été un chérubin. Dans Ézéchiel 28, 12, ce que la plupart des commentateurs voient comme la chute de Satan, il est dit ceci, « Ton cœur s'est élevé, tu as dit, je suis Dieu. » Non, attendez voir, je suis dans 28, 12. Oui, ben, ça c'était juste. « Mais fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr et tu diras ainsi par le Seigneur, tu mettras le sceau de perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de zaphyr, d'escarboucles, d'émeraudes, d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu as été intègre dans tes voies, etc., etc. Et ensuite au verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre au spectacle des rois. Donc, Satan avait été un chérubin qui a été enflé d'orgueil, il voulait devenir Dieu, Ésaïe 14 nous le confirme, et Dieu l'a chassé du ciel. Il est devenu un ange déchu, le chef des démons, parce que Apocalypse 12 nous dit qu'il a embarqué avec lui un tiers de tous les anges qui sont aujourd'hui les démons. Donc, on a l'impression, bien sûr, je ne veux pas être catégorique, mais on a quand même l'impression que ces quatre êtres décrits dans Apocalypse 4 sont des chérubins. Quatre chérubins. Mais qu'est-ce qu'on apprend d'eux ? Des choses incroyables. Remplis Dieu devant et derrière. Verset 6. Alors, ils ne sont pas omniscients. Que Dieu est omniscient, que Dieu sait tout. Et apparemment, ses yeux donnent l'impression de décrire qu'ils ont une pleine connaissance de ce qu'ils doivent savoir, et surtout des événements à venir. Parce que ce qu'on va apprendre, c'est que Dieu va déferler sa colère sur la terre, mais il va utiliser les anges pour le faire. Dans Matthieu 13, verset 40, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on jette le feu, il en sera de la même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui a des oreilles pour entendre, entende. Donc Dieu, lorsqu'il va commencer à jeter cette colère sur la terre, va utiliser les anges et les chérubins. Alors c'est quoi ces visages différents ? Un qui ressemble à un lion, l'autre à un veau, l'autre à un aigle, l'autre à un homme. Alors ça aussi, c'est un peu compliqué, d'accord, mais voici la théorie qui me semble intéressante au verset 11. À la fin de la louange, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car, et là il termine le chapitre 4 avec ceci, car, quoi, tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc voilà, là ils terminent leur louange en disant, tu es Dieu créateur et tu as créé toutes choses. Alors certains commentateurs pensent que ces visages représentent la création de Dieu, surtout animalière si on veut. Le lion représenterait les créatures sauvages. Le veau représente des animaux domestiques, l'aigle représente des créatures qui volent, et l'homme représenté par l'homme lui-même, le summum de sa création. Alors, est-ce que je suis convaincu de cette interprétation ? Non, non, je ne suis pas convaincu, mais voilà ce qui est suggéré. En fait, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Ce qu'on apprend au verset 8, c'est qu'ils ont chacun 6 ailes. Alors, dans Ésaïe 6, on a vu que les chérubins avaient 6 ailes aussi. Avec 2 de leurs ailes, ils couvraient leur face. Pourquoi ? Afin de ne pas regarder directement la gloire de Dieu. Ah, écoutez, si on ne peut même pas regarder face à face la gloire de Dieu, imaginez l'éblouissement. Avec 2 ailes, ils se couvraient les pieds. Ésaïe 6 nous dit, qui décrit certainement leur service pour Dieu, ce qui devait rester propre. Et avec 2 autres ailes, ils se servaient pour voler, prêts à être dispatchés pour servir le Seigneur. Ce qui est intéressant, ils sont autour du trône, ils sont en train d'adorer le Seigneur. Au verset 4, de nouveau l'idée, et au verset 6, qu'ils ont des yeux partout. Voilà. Leur activité au verset 8, regardez, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux autour, au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, saint, 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 et l'Éternel. Écoutez, mes amis, on arrive au haut point du chapitre ici. C'est le moment où la chorale céleste éclate dans une adoration dirigée vers Dieu et son trône. Il est intéressant de constater que la chorale s'agrandit au fur et à mesure que l'éclat de l'adoration commence. Ça commence avec les 4 êtres vivants, au verset 8 et 9, puis les 24 vieillards, au verset 10, puis des harpes sont ajoutées au verset chapitre 5, verset 8. Puis les anges se joignent à la chorale dans chapitre 5, verset 11. Et puis au chapitre 5, verset 13, toutes les créatures qui sont dans l'univers se joignent à leur chorale tout un tour. Donc c'est comme si la chorale s'agrandit au fur et à mesure qu'on avance aux 2 chapitres. Et toute cette adoration, mes amis, est dirigée vers Dieu. Ça va être la grande leçon qu'on va voir dans quelques instants. Donc ici, au verset 8 et 9, ce sont les 4 êtres vivants qui initient ce moment de louange et d'adoration auprès de Dieu. Des anges. Et ils font 5 choses. Premièrement, ils parlent, au verset 8, ils ne cessent de dire jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Ce triple refrain, saint, 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 identique à Ésaïe 6, 3. Qu'est-ce que ça veut dire être saint ? Ça veut dire être totalement séparé, ce qui est unique, ce qui est pur, une qualité morale supérieure, qui possède des qualités divines, en contraste avec ce qui est humain. Celui qui est saint est sacré, élevé, à part, sans tache, ni ride, limpide, propre, parfait, pureté absolue. Pas comme les anges même, dont certains ont péché. Pas comme les hommes qui ont tous péché. Dieu est Dieu, Dieu est saint, et il est saint, et il est saint. Il est totalement autre, mes amis, totalement autre. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Pierre 1,16, « Soyez saints comme Dieu est saint. » C'est intéressant qu'il ne dit pas « puissant, puissant, puissant ». Il ne dit pas « souverain, souverain, souverain ». Il ne dit pas « amour, amour, amour ». Il dit « saint, saint, saint est l'Éternel ». Pourquoi ? Pourquoi 3 fois ? Pour souligner cette sainteté qui est totale et complète et parfaite. Ce n'est pas ici une référence à la Trinité. Non, c'est une référence à la sainteté absolue et totale de Dieu. Et vous savez pourquoi c'est là ? Parce que c'est juste avant le chapitre 6. La sainteté de Dieu est mise en valeur juste avant la colère de Dieu qui va être déchaînée sur la terre. Il veut que nous prenions conscience de cette sainteté de Dieu pour mieux comprendre le jugement juste de Dieu. Samuel 6, 19. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh. Lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel, il frappa 50 000 hommes parmi le peuple, et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Et les gens de Beth-Shemesh dirent, « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, ce Dieu saint ?» Vous savez, les gens, ils ont compris, quand Dieu a détruit 50 000 personnes, ils ont tout de suite compris, Dieu est saint. Et il a parfaitement le droit de juger le péché comme il le veut. Et de prendre 50 000 vies parce qu'ils ont regardé à l'intérieur de l'arche qu'ils n'auraient pas dû faire, ce n'est pas un problème pour Dieu. Tac ! C'est juste. Pourquoi ? Parce que Dieu est saint. Voilà ce que le texte nous apprend ici. Et vous savez, moi, ça m'a frappé cette semaine, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où les églises parlent que de l'amour de Dieu. Ah, moi, je suis pour l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde. Dieu m'a aimé. Il m'a accordé grâce. Il m'a sauvé en Jésus-Christ. Oui. Mais mon salut est important parce que je méritais le courroux et le jugement de Dieu à cause de sa sainteté. Voyez. Et ça, c'est un message qui est vraiment souvent absent aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. C'est tout l'amour de Dieu. Venez, venez, Dieu vous aime. Oui, mais Dieu va vous juger si vous ne vous repentez pas. Et si tu ne le crois pas, reviens partir du chapitre 6 et tu vas voir comment il va juger le monde. Et il est tout puissant. Donc il parle, deuxièmement, ses anges louent, verset 9, regardez. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Ils rendent gloire, honneur et action de grâce. Vous voyez, tout est dirigé à Dieu. Je rends gloire, honneur, merci, action de grâce. Intéressant, vous ne trouvez pas ? Une des manières qu'on sait qu'on est chrétien, c'est qu'on peut rendre grâce à Dieu en toute chose. Parce que Dieu est sur son trône. Ça veut dire qu'il contrôle ma vie. Donc le chrétien, il veut dire merci Seigneur, même dans la galère. Merci Seigneur, tu contrôles tout. Il se prosterne, verset 10. Les 24 veillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. C'est intéressant. Et des fois, dans l'adoration, nos corps veulent l'adorer aussi, se prosterner. Vous savez, nous, on est un petit peu coincés dans nos milieux. Il faut dire ce qu'il y a, d'accord ? On a peur de lever les mains, on a peur de s'exprimer avec nos corps, mais c'est parfaitement biblique. Moi, j'ai grandi dans une église épiscopalienne, il y avait des petits agenouillards pour que les gens puissent s'agenouiller. Alors moi, je trouvais ça un petit peu bizarre quoi, quand j'étais gamin. Mais non, je comprends. Bah, des fois, quand j'ai envie d'adorer le Seigneur, parfois Jésus s'y met à plat ventre dans le jardin. Vous savez, nos corps font partie, on doit offrir nos corps dans Romains 12, 1 et 2. Bah, là, c'est ce qu'ils font, ils se prosternent. Il se prosterne devant cette grandeur de Dieu. Seigneur, je suis tout petit, mais je t'aime et je t'adore. C'est ce qu'ils disent ici. Ils se prosternent. Ils adorent, verset 10, ils adorent Dieu. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils donnent à Dieu la valeur qui lui est due. Parce que nous, ils se courbent devant lui. Et regardez, ensuite, ils jettent leur couronne devant le trône. C'est incroyable. Et ils jettent leur couronne devant le trône. Alors les couronnes, vraisemblablement les récompenses des croyants, on a déjà vu ça tout à l'heure, on va recevoir des couronnes de victoire, parce qu'on a été fidèles jusqu'au bout. Allez, des couronnes, ça va être super. Ah, vous allez être beau en couronne, là, des couronnes sur la tête. Imaginez, on avait tous des couronnes, là, d'accord ? On aura tous des couronnes. Mais le problème, c'est qu'on pourrait se dire, ouais, ma couronne, on pourrait presque s'enorgueillir. Et ce qui est beau ici, vous savez ce qu'ils font avec leur couronne ? Ils les prennent et ils les jettent aux pieds du trône. Ils les jettent à Dieu. Vous savez ce qu'ils sont en train de dire ici ? Hé, ça n'a rien à voir avec moi tout ça. C'est tout Dieu, tout Dieu, tout ce que j'ai reçu, même la fidélité qui m'a permis d'avoir une couronne me vient de Dieu. Dieu, merci, à toi la gloire, à toi honneur, je te redonne tout. Tout à l'heure, on a chanté. Je lui donne tout, même mes récompenses, tout, 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 je lui donne tout, symbolisé dans ces couronnes ici. Ah oui, et il termine au verset 1, au verset 11. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Seigneur, tu m'as créé, tu as créé tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce qui m'appartient, je te rends tout. Donc ça quand je chantais ce chant ce matin, j'y pensais, je me dis, voilà, notre temps sur terre, c'est notre préparation à tout lui donner. Bon, on va se poser la question, qu'est-ce que je retiens pour moi? Allez, je conclue. Quelques pensées sur l'adoration. Moi, je pense ici que nous avons une leçon très importante sur la nature de l'adoration. Notez une chose. Si vous vous rappelez d'une chose, rappelez-vous de ceci. Un mot. Trône. Trône. Tout dans le ciel pointe au trône et à Dieu qui est sur le trône. L'adoration est pour Dieu. Dans le ciel, tout est focalisé sur Dieu et sur son trône. Et je me demande, et là je me parle à moi, et là je parle en tant que coupable. Je suis coupable, d'accord? Je me demande si dans nos églises, nous nous trompons d'emphase parfois. Ce n'est pas la beauté de la musique qui compte, ce ne sont pas les instruments qui comptent, ni le type, ni le nombre, mais notre adoration de Dieu qui compte, c'est l'attitude que nous apportons. Notre attitude d'action de grâce et d'honneur que nous donnons à Dieu. Saviez-vous que dans le ciel, il n'y a que deux instruments mentionnés apparemment, des harpes et des trompettes. Je me suis dit, c'est raté, moi je suis batteur, d'accord? C'est raté, je suis batteur, je joue la batterie, Serge, désolé, c'est raté pour toi aussi, d'accord? Toi t'es pianiste. Mais c'est pas ça la question, on n'est pas en train de dire ce qu'il devrait y avoir comme instrument ou pas, c'est pas ça. Ce n'est pas un mal d'avoir des instruments. J'aime jouer la batterie. Mais je me demande si parfois on se trompe d'emphase. Est-ce que je viens louer Dieu parce que je veux louer Dieu? Est-ce qu'elle est vraiment centrée sur Dieu? Ou bien est-ce que je me fais piéger dans mon désir d'offrir une louange sympa pour les gens de l'Église, pour que notre louange soit bien. Comparé aux autres. Oui, on peut même en arriver là. Je suis coupable de cela. Et je demande pardon. Et cette semaine, je pensais aux multitudes de petites églises qui n'ont pas des beaux groupes de louanges. Et quoi? Je me suis dit, si on était en Afrique, sous un arbre, en train de louer le Seigneur les tam-tam, on dirait, génial l'expérience, c'est super! Parce que c'est culturellement comme ça qu'on loue, sous cet arbre, dans cette tribu en Afrique peut-être. Oui, c'est le cœur. C'est le cœur. Alors, je ne cherche pas du tout à critiquer les groupes de louanges, j'en fais partie. Mais je dois faire le bilan dans ma vie. John, pourquoi est-ce que tu joues à la batterie? Pourquoi? Pourquoi je le fais? L'adoration veut dire honneur rendu à Dieu, rendre hommage, honorer, respecter, louer, rendre un culte. Donner quelque chose à Dieu, donner toute louange. Donc, je conclue avec ceci. Ça, c'est vraiment ma conclusion, d'accord? 5 actions pour adorer Dieu sur terre avant qu'on arrive au ciel. Numéro 1, on doit faire comme eux. Je constate la place de Dieu sur son trône. En arrivant ici, le dimanche matin, je me dis, bon, John, pense à Dieu sur son trône. C'est tout ce qui compte. 2, j'affirme à Dieu sa sainteté, sa toute-puissance et son éternité. Verset 8. Je lui dis, et je lui redis, et je lui redis, et je lui redis. 3. Je rends à Dieu gloire, honneur et action de grâce. Je remercie Dieu pour ma vie, pour mon lot dans la vie. Ceci est capital. Pas d'amertume. Seigneur, merci. Merci pour mon lot. Merci pour les bénédictions. Merci pour mes épreuves. Tu es sur ton trône. 4. Je me prosterne devant Dieu. C'est ce qu'ils disent au verset 10. Je suis ton humble serviteur. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je m'offre. Toute ma vie, tout ce que je suis, t'appartient. Et je te rends cinquièmement tout ce que j'ai, car tout ce que j'ai, je l'ai reçu de ta main. Même mes couronnes, ma couronne, je te la rends. Rien pour moi, tout pour toi. Et ça, mes amis, c'est ce qu'on va faire pendant toute l'éternité. Vous dites, mais John, est-ce qu'on ne va pas se fatiguer là-haut pendant toute l'éternité en train de faire ça? Non. Je vais vous dire pourquoi. Quand Meg et moi, on va skier, skier peut-être une ou deux fois par année, on y va toujours un jour où il fait grand beau. Parce que nous, le ski, c'est qu'une petite partie du bonheur de cette journée. Nous, ce qu'on aime, c'est d'aller dans les Alpes, skier 30 ou 40 minutes et se poser dans un restaurant avec une vue sur les Alpes. Et là, waouh, on est complètement soufflé par cette vue. Et je vous pose une question. Vous qui connaissez cette vue, est-ce qu'elle vous fatigue? Est-ce qu'elle vous fatigue? Non, jamais. C'est trop grandiose et trop beau. Écoutez, les Alpes, c'est le marchepied de Dieu. Imaginez être devant Dieu. Est-ce qu'on va se fatiguer? Non. Non. Jamais. Jamais. Seigneur, merci de tout cœur pour ce magnifique chapitre 4 d'Apocalypse. Oh Seigneur, j'ai l'impression qu'on n'a que touché à peine quelques miettes de la gloire de ce chapitre, Seigneur. Moi, je me réjouis déjà de faire le chapitre 5. Aide-nous, Seigneur, à apprendre à t'adorer comme nous le devrions, Seigneur, en esprit et en vérité. Nous te remercions et nous te louons au nom de Jésus. Amen.